Première, tout autre chose.
Martine Cornil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la première. Et puis bienvenue à vous, Baudouin Labrique, bonjour.
Bonjour,
voilà.
Madame Cornil.
Vous avez publié aux éditions de la Renaissance du livre, un livre qui s'appelle « Quand les thérapeutes dérapent ». C'est un livre sous forme d'essai. Vous êtes vous-même psychothérapeute. Il faudra peut-être du coup aussi redéfinir et redire qu'en Belgique, en tout cas, la profession... Le terme de psychothérapeute n'est pas protégé. Alors vous, vous allez plus loin que d'autres. Vous demandez non seulement à ce que le terme psychothérapeute puisse être protégé, mais le terme thérapeute aussi. Parce que après tout, vous dites, bah, si le terme psychothérapeute est protégé, rien n'empêche quelqu'un de mettre machin thérapeute ou thérapeute machin. Et si le terme thérapeute n'est pas protégé, ben on en arrivera au même résultat.
Absolument.
On va parler de tout cela avec vous. On va aussi parler de certaines attitudes, évidemment, assez peu thérapeutiques. In fine, et notamment grâce à l'expérience que vous avez de gens qui vous ont raconté ce qui leur était arrivé chez certains psy quelque chose. Et puis, bien sûr, nous allons entendre vos témoignages et entendre vos questions, soit au 02 737 26 06. Et aujourd'hui, c'est Catherine Sorel qui vous accueille. Il y a la possibilité de nous envoyer vos SMS au 60 31, 50 centimes le message. Et par courriel, eh bien, c'est www.lapremière.be. Alors, avant toute chose, illustration sonore pour commencer cette émission. Ce qu'on va entendre ici, c'est un extrait d'une fiction, d'un film qui s'appelle « Mortel transfert », un film de Benex. Ça date de 2001. Ce que vous allez entendre, c'est Jean-Hugues Anglade, qui est psychiatre et qui consulte un confrère parce qu'il a des problèmes avec une patiente.
Je suis fou. J'ai fait un faux témoignage pour cette femme. Depuis, elle n'a pas abordé la question une seule fois. Chaque fois que j'essaie de la ramener là-dessus, elle se défile. Par contre, sur les brutalités de son mari, elle est intarissable. Max s'allonge sur moi. Il m'écrase de son poids. Ses mains remontent jusqu'à ma gorge. Il ouvre mon corsage quand il ne le déchire pas, etc., etc.
À quoi pensez-vous?
Je crois qu'elle essaye d'éveiller en moi des désirs meurtriers. C'était un temps. Je devrais arrêter avec elle, mais j'y arrive pas. Je me suis tellement fait avoir que je voudrais comprendre.
Oui.
Mais enfin, je veux dire pourquoi je m'endors de plus en plus souvent pendant les séances. À chaque séance avec elle, je m'endors maintenant. J'entends sa voix dans mon sommeil. Ça se mélange avec la réalité, c'est étrange. Je rêve d'elle. Enfin, de ce qu'elle me raconte.
Et ça s'arrêtera quand?
Ça s'arrêtera quand?
Bien, Michel.
Voilà, donc extrait de ce film Mortel transfert. Alors là, on est dans un cas bien précis puisqu'il s'agit d'un psychiatre qui va consulter un confrère. De quelle urgence, en tout cas en ce qui vous concerne, Baudouin Labrique, est né cet essai quand les thérapeutes dérapent, voilà, j'y arriverai. De quelle urgence est-il né cet essai-là?
L'urgence, c'est en tout cas faire le ménage dans cette profession et n'est pas seulement... ne touche pas seulement les psychothérapeutes, mais également les médecins, les psychiatres, tous ceux qui s'occupent de santé. Et l'urgence, c'est aussi éviter autant que possible et l'inscrire dans la loi que des dérives continuent à se perpétrer comme ça au su et de tout le monde. Et voilà, j'aime beaucoup cette phrase d'Einstein qui m'a un peu motivé à écrire ce livre, c'est... Il disait, paraît-il, le monde est dangereux à vivre, non pas tant à ceux qui font le mal, mais à ceux qui regardent et laissent faire. J'ai d'ailleurs vu cette citation, petite anecdote, avec bonne surprise sur la tombe de Julie Mélissa. Et je me disais justement, peut-être que dans notre pays, et dans d'autres d'ailleurs, on laisse beaucoup faire trop les choses.
Alors, vous dites, il s'agit de faire avec ou sans guillemets le ménage. Vous évoquez dans ce livre les thérapies et les médecines conventionnels, vous les appelez comme ça, hein, plutôt que de dire officiels ou non officiels.
Mais je reprends simplement l'appellation de la communauté européenne économique, ce qui distingue simplement les thérapies qui bénéficient de conventions avec les organismes de santé, les conventionnels, et celles qui n'en bénéficient pas. Je crois que ce distinguo est beaucoup plus approprié que de parler d'alternatives, de complémentaires, etc.
Alors, au cœur de cet ouvrage, il y a la relation entre le thérapeute, quel qu'il soit, et quelle que soit d'ailleurs sa formation, et le patient, ou parfois le client, parce que parfois on peut plutôt parler de client que de patient. Mais là, en l'occurrence, on ne va pas utiliser le mot patient. Je pense que c'est beaucoup plus simple, et on va continuer à utiliser conventionnel et non conventionnel si de temps en temps nous parlons de certains types de thérapie ou de relations de soins. Et au cœur de cet ouvrage, cette relation qui génère du sens, évidemment. L'annonce, par exemple, d'un... Et ça, je veux dire, aujourd'hui, c'est quasiment validé. Enfin, il y a beaucoup d'études et de recherches qui sont faites, notamment en psychologie positive et en psychosomatique. L'annonce d'un problème de santé plus ou moins grave, mais disons grave, est perçu différemment selon la manière dont le thérapeute, évidemment, va l'annoncer. Or, on sait bien que beaucoup de médecins ont très peu de temps parce qu'ils ont des journées extrêmement chargées, beaucoup de patients à voir. Il suffit de voir combien de temps on attend parfois pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste. On sait bien aussi que dans les études de médecine, qui sont des études lourdes, compliquées évidemment, essentielles, il y a peu de place laissée à la psychologie et donc à la relation thérapeutique. Et on voit bien aujourd'hui, et depuis certainement 15 ou 20 ans, que ce manque de temps, ce peu de place parfois, est une forme d'empathie, et on peut comprendre que certains médecins s'en protègent, eh bien, a pour effet collatéral que de plus en plus de personnes se tournent vers à peu près n'importe qui. On est bien d'accord, hein ?
Je dirais n'importe qui, je ne sais pas. C'est-à-dire que vous avez bien pointé le problème, c'est que l'attitude des médecins, des thérapeutes conventionnels, le manque de temps et aussi le manque de formation en relation d'aide, ça me paraît très important, ils ne savent pas ce que c'est une relation d'aide. Peut-être on pourra tantôt développer ça, mais font que les patients échaudés, maltraités, je vais vous donner quelques exemples, se détournent vers d'autres approches où le point fort est la qualité d'écoute et le temps dont ils vont bénéficier. Et effectivement, il faut savoir que le patient est vulnérable, il est en état de faiblesse, et qu'il s'adresse à un médecin ou à un non-médecin, il est sujet à emprise de toutes sortes, il est sujet à maltraitance, simplement parce qu'il est en demande, il souffre. Et quand on souffre, la raison n'est pas toujours au rendez-vous.
Enfin, tous les patients ne sont pas sujets à maltraitance, on est quand même bien d'accord, hein.
Non, mais potentiellement, c'est-à-dire qu'il y a des thérapeutes qui dérapent, qui dérivent, sans même savoir qu'ils dérapent, qu'ils dérivent. Et ils sont de bonne foi, mais la bonne foi, le bon cœur ne suffit pas en accompagnement thérapeutique. Il faut une éthique, une déontologie très pointue.
Alors, ces dérapages que vous pointez du doigt de la part de certains thérapeutes, c'est quand finalement le thérapeute s'exprime à la place du patient, notamment en psychothérapie, ça peut être le cas aussi dans d'autres thérapies psy, c'est quand il dit « Ah, voilà, ce symptôme-là, ou ce que vous venez de dire là, signifie ceci ». Et vous insistez beaucoup dans votre ouvrage sur le fait que seul le patient a la réponse. Et ce n'est pas au thérapeute, au psychothérapeute, de lui apporter une réponse qui finalement est parasitée par ses propres sensations, ses propres sentiments, son propre vécu.
Absolument, absolument. Et pour prendre un exemple concret, il y a le décodage biologique qui est, je dirais, une pratique de la médecine du docteur Hammer et de la biologie totale. Et effectivement, l'écueil de base, c'est déjà se poser en tant que personne. Un thérapeute qui s'occupe d'accompagnement psychique ne peut pas se poser en tant que personne. Donc il ne peut pas donner d'avis, d'interprétation. Il doit être ce que Socrate, qui est considéré comme un des premiers psychothérapeutes, avait préconisé au travers de sa maïeutique. Maïa est la déesse de l'accouchement. Et la mère de Socrate était accoucheuse. Et on pense que ça a certainement inspiré. Donc se comporter en maïeute, c'est se comporter en accoucheur, en facilitant la venue de l'enfant de la guérison, on pourrait dire, mais on ne fabrique pas la guérison. Mmh. On éveille le patient à la manière dont il a envie de se guérir, s'il a envie de se guérir d'ailleurs, on ne peut faire aucune pression. Et donc, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, balancer des décodages, dire voilà, vous avez tel mal, c'est à cause de ça, c'est tout à fait déplacé, c'est se comporter en gourou, mmh. ni plus
alors,
ni moins.
Oui, ce qui est terrible dans ce que vous dénoncez à travers des exemples de vos propres patients, des exemples vécus de gens qui sont venus vous voir presque, enfin pas en désespoir de cause, mais après avoir fait toute une série d'autres thérapeutes, et notamment en ce qui concerne la biologie totale ou celle de Hammer, c'est que des gens, enfin plus ou moins n'importe qui, moi par exemple, vont assister à quelques séances, s'enfilent quelques séminaires et quelques syllabies, et puis se disent voilà, bah ça y est, on y est, on est thérapeute en biologie totale par exemple, et font des dégâts évidemment qui peuvent être considérables, puisque ça va, en tout cas pour Hammer, jusqu'à demander, alors lui il est médecin à la base, hein, mais c'est, enfin alors il est parti évidemment, il a fait une thèse, il prétend certaines choses, ce n'est pas validé, il n'y a pas de validation scientifique.
Aucune base scientifique.
À ce qu'il avance, ce qui ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est faux, mais en tout cas, il n'y a pas de validation scientifique à ce qu'il avance, et on parle quand même de choses sérieuses puisqu'on parle de la santé des gens, et ça va très loin puisque ça va jusqu'à couper des gens de traitements médicamenteux qui sont nécessaires à leur survie ou à leur guérison, et dont il se passe, et finalement, et dont il meurt, je veux dire. On est quand même là-dedans. Hein.
Mais il y a peu de gens savent que, juste avant d'avoir été radié, le docteur Hammer a une visite, une clinique en Allemagne privée, et on possède plusieurs témoignages d'infirmières et de personnes qui ont travaillé. Comme il interdisait toute médication, peut-être la cortisone et encore, les personnes souffraient horriblement. Mmh. Et c'est suite à des plaintes que la clinique a été fermée. Mmh. Les personnes qui ont témoigné ont dit qu'il n'y a pas eu de guérison durant un an. Le magazine Spiegel parle de quelques guérisons, la seule statistique qui existe. Là, c'est pour couper l'herbe sous le pied des gens qui diraient que Hammer est quelqu'un qui a été capable de guérir, entre guillemets, des milliers de personnes. Et donc, c'est suite à ça qu'il a été radié, mais il a continué, malheureusement.
Alors ici, on a déjà quelques témoignages. Je vous les livre. Un témoignage assez long, mais qui finalement recoupe beaucoup de choses dont vous parlez dans ce livre « Quand les thérapeutes dérapent ». C'est Marguerite, je pense. À propos des thérapeutes qui dérapent, je ne peux vous raconter mon histoire dans les détails, mais quand même, en voici quelques éléments. En 2007, j'arrive complètement disloquée chez un thérapeute TCC, donc c'est les théories thérapeutes comportementales cognitives, ou cognitives comportementales, et EMDR. Alors le EMDR, vous en parlez dans votre livre. Là, c'est sujet... il y a beaucoup d'écrits qui ont été faits là-dessus. Hein, donc, surdiplômé. La première séance est très administrative, peu de place pour l'objectif de la thérapie. La deuxième séance se termine par « Ouf, il y a du boulot ». À la fin de la quatrième, je suis prise d'un malaise, il reste assis, ne sachant que faire ni que dire. Finalement, il me laisse partir sans broncher. À maintes reprises, par des questions précises, j'ai essayé de comprendre son état d'esprit. Il est resté fermé à toutes mes remarques et néanmoins prétendait vouloir continuer ce travail avec moi. Il prenait peu de notes, alors j'écrivais mes impressions sur papier et je les lui déposais en séance. La plupart du temps, il ne les lisait pas ou de travers. Un jour, en fouillant dans ses notes, il m'a lancé « Attendez, j'essaie de m'y retrouver dans ce bazar ». J'ai répondu Ah, un bazar. Eh bien, ce bazar, comme vous dites, monsieur, c'est ma vie. Qu'il soit en retard ou qu'il soit irrespectueux à mon égard, il n'a jamais présenté d'excuses. Jamais. Il y avait confusion entre son espace privé et son espace professionnel. Régulièrement, pendant les entretiens, son épouse et sa fille chahutaient dans le couloir avec des copines. Pendant presque 2 ans, je suis restée dans cette situation conflictuelle dans laquelle les rôles se sont réellement inversés, car ce thérapeute semblait avoir de sérieux problèmes avec ses propres émotions. Le rapport qu'il m'a remis un jour en fin de séance en a teste clairement. De plus, les problèmes de transfert et contre-transfert ont été complètement niés par ce thérapeute qui finalement a reproduit la plupart des traumatismes vécus dans mon passé. déni de ma réalité, de ma souffrance passée et présente, une forme de rejet, et en même temps, il me maintenait dans une forme de dépendance. J'ai contacté plusieurs thérapeutes ou professeurs des facultés de psychologie pour trouver de l'aide, mais la plupart se sont retranchés derrière une attitude d'autruche. Nous ne savons que tout n'est pas parfait, mais nous préférons ne pas le redécouvrir. Finalement, j'ai rencontré une thérapeute extraordinaire qui a tout de suite saisi la gravité de la situation et qui a accepté de m'accueillir avec cette problématique. Et sans démolir le thérapeute, m'a aidé à reconstruire mon identité et m'a appris à prendre ce qui m'appartenait et laisser à l'autre ce qui lui appartient. Cette thérapeute a reconnu et confirmé qu'une telle expérience est un réel traumatisme. Le thérapeute en question continue à donner des formations et organise des groupes thérapeutiques sur le travail des émotions. Alors, c'est long comme courriel, mais je pense qu'il y a tellement de choses là-dedans qui rejoignent votre ouvrage que ça valait la peine de le lire, d'autant que c'est un témoignage là, clairement, qui nous arrive par Maggie. Là, on est complètement dans le propos de votre livre.
Oui, en plus, je ne pense pas que le thérapeute, au départ, a, par exemple, fixé le cadre. S'il avait fixé le cadre, c'est-à-dire prendre un certain temps, et même si possible, remettre un écrit où il dit qui il est, ses diplômes, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, la durée de la thérapie, etc. Visiblement, cette femme a été plongée directement dans quelque chose dont elle n'avait pas les tenants et aboutissants et bien évidemment, une série de dérives en conséquence.
Mmh. Alors, on sait qu'il y a un ordre des médecins.
Pardon ?
Il y a un ordre des médecins. Hein. Je veux dire, oui. Ça existe. Donc, je veux dire, on peut toujours, en tant que patient, quand il s'agit d'un médecin...
Mais même quand il s'agit d'un non-médecin, à partir du moment où la personne pratiquerait l'exercice illégal de la médecine. Donc ça, on peut le faire et l'ordre des médecins réagit, mais sur plainte uniquement.
Il y a peu de gens qui osent. Hein.
Oui, parce que c'est une démarche. Vous savez, un patient, pathie veut dire en grec souffrir. Il est déjà souffrant. S'il a été maltraité, il souffre encore plus. Et encore faire une démarche, écrire, etc.
Dans des cas pareils, il préfère
pas rebuer tout ça, on peut le comprendre.
Et quelque part, c'est dire aussi, je me suis fait avoir, je me suis laissé prendre.
Il y a beaucoup
c'est
de culpabilité. Et avouer qu'on est tombé dans les griffes d'un thérapeute, thérapeute avec D, c'est un beau néologisme, ce n'est pas évidemment quelque chose de valorisant, au contraire.
Alors ici, un autre témoignage, c'est Yvette qui dit, ça fait presque 20 ans qu'elle recherchait quelqu'un qui respecte son patient et elle est d'accord de faire, un cheminement avec lui, avec ce patient. Finalement, dit-elle, ce sont des prêtres qui m'ont aidée sans être dans l'indifférence qui tue. Son cœur pleurait tout le temps. Elle est maintenant dans l'apaisement.
Très encourageant, évidemment. Les prêtres, je suis toujours un peu dubitatif par rapport aux thérapies exercées par des prêtres ou des religieux. Parce que la tendance, malheureusement, c'est de mélanger des croyances dogmatiques religieuses, de les mélanger ça à la thérapie et arriver, par exemple, à donner des choses comme à dire à la personne « pardonnez à votre violeur ». Le cas de cette patiente qui va voir un moine bouddhiste et elle a été violée plusieurs fois.
Mais ça, c'est un exemple que vous donnez dans l'ouvrage.
Exactement. Et donc, la thérapie consistait simplement, madame, mais pardonnez votre violeur. C'est pas possible de pardonner. Pardonner n'est pas un acte mental, ce n'est pas une décision. C'est le résultat d'un processus où on a pu regarder ce qui s'est passé avec la pédophilie en Belgique, chez les religieux, et également dans l'affaire Julie Mélissa, les victimes de Dutroux, etc. Et, le jugement, la reconnaissance participent à cette guérison, de pouvoir tourner la page, de pouvoir être reconnu dans sa souffrance. Et donc, courir à pardonner, je vais pardonner, c'est évidemment une fausse route et ça n'arrange strictement rien, mais c'est malheureusement une grosse, trop grande tendance chez les thérapeutes religieux.
Alors oui, ce que vous préconisez, c'est que finalement, chacun son précaré. Hein. Je veux dire, être thérapeute, c'est un métier. Alors il faut forcément un petit don à la base. Hein. Je veux dire, si on n'aime pas les gens, c'est peut-être pas la peine d'y aller. Mais, prévient, c'est mieux. Donc c'est un métier. Et ce que vous appelez, c'est non seulement une meilleure éthique, évidemment, mais un meilleur encadrement aussi. Comme on le disait en tout début d'émission, on va peut-être revenir dessus. Ce n'est pas seulement protéger et cadrer la définition de ce qu'est une psychothérapie ou de ce qu'est un psychothérapeute, puisque jusqu'à aujourd'hui...
Ou un thérapeute, ne limitons pas ça à la psychothérapie.
C'est ce que je dis, c'est pas seulement ça, c'est aussi aller plus loin, c'est dire voilà, il suffit pas de dire voilà, et pour être psychothérapeute, il faut remplir telle et telle condition et avoir telle et telle... avisé, là il faudrait aller beaucoup plus loin parce que sinon effectivement on va se retrouver avec des gens qui vont inventer des mots invraisemblables quoi.
Oui, là-dedans il y a beaucoup de choses, beaucoup de mots, de terminologies qui font illusion. Je ne sais pas si vous comptez l'aborder maintenant, mais je prépare un projet de loi pour protéger la pratique thérapeutique, donc en allant même plus loin que ce que je disais dans le livre, c'est-à-dire protéger, non, pas seulement le titre de thérapeute, mais protéger la pratique. Il faudrait à ce moment-là un observatoire des thérapies, comme ça existe pour la presse, et que tout patient puisse simplement écrire, téléphoner. Donc il n'y a plus une démarche devant l'ordre des médecins, ni devant la justice. Et le thérapeute serait obligé, d'abord au départ, de se déclarer thérapeute, parce que là, il y a des thérapeutes qui fonctionnent au noir, voire qui ne payent pas de TVA, alors que tout ce qui est non conventionnel est soumis à la TVA, peu de gens le savent, de 21%, malheureusement. Donc tout thérapeute devrait se déclarer comme tel. Il devrait aussi, par écrit, décrire ce qu'il fait, quelles sont les bases empiriques, scientifiques, etc. S'engager à un certain nombre de choses, notamment à établir un cadre, informer le patient au départ et l'informer aussi qu'en cas de problème, il y a l'observatoire. Je crois que si on faisait ça, et j'aimerais bien, vous me direz, je suis peut-être un peu ambitieux, l'étendre à l'Europe, parce que je crois que ce projet pourrait, une fois pour toutes, régler le problème. Je ne sais pas si vous avez envie qu'on parle du cas français. On a protégé la psychothérapie en France, mais ça n'aboutit à rien, parce que les anciens psychothérapeutes qui ne veulent pas se plier à la loi, la nouvelle loi, change de nom, comme vous l'avez dit tantôt.
C'est ce qu'on a dit, on
il s'appelle psychiatricien et psychopatricien. Et actuellement, dans les pages jaunes françaises, vous avez des nouvelles rubriques.
Alors ici, Jacques Van Rillard, qui est professeur émérite de l'Université de Louvain, qu'on reçoit régulièrement dans cette émission, dit qu'il faut rappeler que n'importe qui peut s'appeler aujourd'hui comportementaliste ou psychanalyste. Ce sont des titres qui n'ont pas plus de valeur légale qu'astrologue ou graphologue. Et puis, cet autre témoignage de Martine, que dire de ce psychothérapeute qui s'est permis plus d'une fois de me dire qu'il ne pourrait jamais aller boire un verre avec mon mari parce qu'il est mortel, me dire que je dois m'ennuyer avec lui. Je me suis attachée à ses rendez-vous, ne comprenant pas que j'étais manipulée. Un endoctrinement pour me pousser à quitter mon mari alors que moi, je venais le consulter pour sauver mon couple. Il m'envoyait des SMS pour demander de mes nouvelles, je trouvais ça sympa, mais aujourd'hui, je comprends que tout cela n'avait pour but que d'assurer les consultations à 55 euros et dire que cet homme de plus de 70 ans reçoit plusieurs de mes collègues pour différents problèmes. Attendez, parce que là, voilà. Pour différents problèmes, quel pouvoir il a sur l'équipe professionnelle que nous formons? Je crains un dérapage. Là, on peut déposer plainte dans des cas pareils, quand même.
Oui,
vous l'avez dit.
Mais encore une fois, c'est très inconfortable. Et comme vous l'avez très bien dit tantôt, la personne peut se sentir coupable de s'être laissée dans les griffes d'un tel thérapeute et d'avoir continué. On pourrait lui dire, mais enfin, pourquoi avez-vous continué? Or, peu de gens se rendent compte que, justement, la manipulation, étymologiquement, la manipulation veut dire manier avec les mains, avec soin. Eh bien, la manipulation est invisible, elle se fait insidieusement et la personne ne se rend même pas compte qu'elle est manipulée. Ce n'est qu'au bout d'un certain temps qu'elle s'en rend compte. Et alors, après un certain nombre de séances dans lesquelles on l'a plongée dans une dépendance, comme cette personne le disait, et malheureusement, encore une fois, beaucoup de culpabilité et on n'a pas envie de mettre ça sur la place publique.
Bon, on a beaucoup de messages, hein, vous en doutiez, je suppose, je vous les livre. Quelqu'un qui dit « Je suis psychothérapeute et donc charlatan potentiel et ne partage pas votre point de vue. Partagez avec la personne qui est en face de nous ce que son discours nous envoie. » Non pas comme une vérité vraie, mais comme une hypothèse peut s'avérer très efficace. Il s'agit d'émettre bien évidemment des hypothèses et non d'énoncer des vérités vraies pour encourager la personne à mettre en mots l'implicite et travailler ensuite sur ce qui aura été rendu explicite. J'ai le souvenir d'une personne ayant subi l'inceste qu'un psychiatre, profession réglementée et titre protégé, a manipulé à son tour jusqu'à la mettre dans son lit. Il y a des brebis galeuses dans toutes les professions. Stigmatiser les psychothérapeutes n'est pas des plus heureux. Pour ma part, je n'ai été formée en 2 ou 3 week-ends. Je me forme en continu depuis plus de 15 ans et rencontre un superviseur toutes les 4 à 6 semaines. Sans doute ce qui me permet de garder cette part de doute tellement utile dans notre métier qui distingue le professionnel consciencieux du gourou en puissance, détenteur du savoir et de la vérité absolue. Mais je lirai votre livre, monsieur, histoire de me remettre une fois de plus en question, bien à vous. Avant que vous ne répondiez, Baudouin Labrique, je voudrais quand même dire que vous ne jetez pas le discrédit sur tous les psychothérapeutes, que les choses soient bien claires. Vous parlez de beaucoup de thérapeutes dans cet ouvrage. Vous êtes vous-même psychothérapeute, donc il n'y a pas à se sentir attaqué parce qu'on est psychothérapeute. C'est simplement une mise en garde. Et puis, on sait aussi qu'en psychologie, y compris en médecine, enfin, je veux dire, et y compris dans les choses qui sont validées, il y a des écoles différentes. Et qu'une école qui peut durer pendant 15 ou 20 ans et qui prétend dire que c'est le bon chemin peut se retrouver face à une autre école qui dit exactement l'inverse, mais qui dit que c'est le bon chemin aussi. Et j'ose espérer que vous n'allez pas nous dire que c'est vous qui avez la vérité vraie. C'est votre hypothèse, c'est votre essai.
En fait, cette personne parlait de que le thérapeute pouvait émettre des hypothèses. Moi, je dis non, parce que émettre une hypothèse par rapport, voilà, votre cancer de l'estomac, c'est un problème relationnel avec, ça pourrait être un problème relationnel avec votre grand-père. Eh bien, le patient à ce moment-là.
Mais là, on n'est pas dans le cadre d'une psychothérapie, Baudouin Labrique. Là, on est dans le cadre.
Oui, mais cette personne est dans le cadre d'un. Elle dit qu'un psychothérapeute peut émettre des hypothèses.
Oui, mais de manière générale, je veux dire, les psychothérapeutes ne font pas ce genre d'hypothèses. Là, on est plus dans les trucs de biologie totale, etc. On
oui,
est
mais
bien
c'est
d'accord.
C'est ce que ce thérapeute prétend, c'est qu'on peut émettre des hypothèses. Mm-hmm. Alors qu'émettre une hypothèse, c'est faire croire insidieusement au patient que le thérapeute sait mieux que lui. Et c'est l'empêcher d'accoucher de sa propre vérité, comme alors, je disais tantôt.
Alors quelqu'un ici qui dit, c'est une psychothérapeute bruxelloise, je tiens à vous informer qu'une commission des plaintes est en train de se mettre sur pied pour toutes les thérapies humanistes. Toute personne qui veut déposer plainte contre un thérapeute peut donc le faire. Ici, d'autres témoignages encore. Je m'appelle Mayence et je voudrais féliciter Monsieur Labrique pour la réalisation de son ouvrage et sa pertinente dénonciation des certaines dérives de certains thérapeutes. C'était absolument indispensable. En ce qui concerne les dérives de certains médecins, je tiens à vous faire part de ce qui suit. Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai moi-même été victime, entre guillemets, d'un diagnostic inacceptable par téléphone de la part d'un médecin qui m'annonçait une chirurgie invasive et qui, de surcroît, m'a dit qu'il avait déjà pris toutes les dispositions à cet égard. Alors, pour compléter la démarche de Monsieur Labrique, je souhaiterais vraiment la même démarche de la part d'un médecin. Il y a des médecins qui font cette démarche. On en a reçu dans cette émission, bien évidemment. Je ne pense pas que la majorité fonctionne fort heureusement
bien
comme
entendu,
ça.
Je ne crois
mais
pas
là,
ce
on
que
est,
cette personne
on est évidemment dans la violence. Quoi.
Bien sûr. Mmh. Mais cette violence verbale, elle se manifeste par exemple, une patiente qui me dit, voilà, patiente de 80 ans, et qui me dit, voilà, mon médecin m'a dit que j'étais trop vieille pour guérir. Imaginez.
Trop vieille pour
guérir. Mmh. C'est effrayant. C'est effrayant. Et de quel droit?
Alors ici, quelqu'un qui nous dit ceci, c'est Raymond. Je suis avec attention votre émission et je voudrais apporter un témoignage. Je suis cité dans un procès en cours contre un thérapeute se revendiquant du docteur Hammer, qui est poursuivi pour exercice illégal de la médecine et coups et blessures ayant entraîné la mort. Au cours des débats, il ressort qu'il y a dans le droit belge un vide juridique quant à la définition du psychothérapeute. Dans le cas qui nous occupe, le psy, entre guillemets, est un escroc et méprise ses anciens clients. Il est temps que le législateurs prennent les dispositions pour bien encadrer la profession et que n'importe qui ne puisse plus exercer ce métier. Un assistant social, fût-il bon, ne peut se prévaloir du droit à soigner ses semblables. Voilà, ça rejoint évidemment tout votre ouvrage.
Et il y a d'ailleurs ce procès à Liège dont vous avez eu vent, sans doute plaidoirie, dernière plaidoirie ce mois-ci, ça dure depuis 10 ans, tenez-vous bien, et jugement attendu en juin, il s'agit d'un thérapeute qui est poursuivi pour exercice illégal de la médecine et d'autres choses encore. Il y a plusieurs chefs d'inculpation, la personne étant décédée. Et donc là aussi, c'est quelqu'un qui au départ était le bras droit de Claude Sabat, la biologie totale, et puis il s'en est détourné, dit-il, mais il continue à pratiquer ce qu'on appelle le décodage biologique. Et donc voilà, j'espère que ce procès amènera à des prises de conscience. En tout cas, l'avocat des parties civiles prétend, et je crois que ça mérite réflexion, que lorsqu'un thérapeute dit à son patient, voilà, votre cancer est dû, par exemple, à un problème relationnel avec votre grand-père, c'est du traitement médical et donc c'est assimilé à l'exercice illégal de la médecine. Pourquoi pas? Puisque là, il s'agit de donner un diagnostic peut-être psychologique, psychique, mais c'est tout de même un diagnostic. Et pourquoi pas ne pas considérer ça comme pratique illégale de la médecine.
Alors, ce qui apparaît aussi dans l'ouvrage, et ça apparaît dans la bouche d'autres... Vous faites souvent référence à Thierry Janssen, qui met ça en avant aussi. C'est qu'une des grosses dérives de certaines thérapies, avec ou sans guillemets, allez, mettons les guillemets, c'est de culpabiliser le patient. Alors, dans le cas précis, votre cancer est dû à un problème que vous avez avec votre grand-père. Ah, mais vous n'avez pas réglé ce problème avec votre grand-père. Eh bien, ne vous étonnez pas alors si vous allez mourir.
Thérapeute qui s'en va jusqu'à dire, lâchez votre conflit avec votre grand-père, les choses seront réglées, lâchez le conflit. Ouais. C'est comme pardonner, c'est du même ordre.
Oui, et donc c'est aussi cette chape de culpabilité qui peut littéralement empoisonner encore plus la fin de vie de certaines personnes.
Qui détruit peut-être la personne.
Et qui se disent, ben voilà, finalement c'est de ma faute si je suis malade, puisque je ne suis pas arrivée
à
guérir. Oui.
Je ne le mérite peut-être pas.
Et ça, on entend ça quand même assez souvent.
Absolument, absolument. Je vais vous donner un exemple que je donne dans les livres. C'est une dame qui est atteinte de la maladie de Parkinson et qui vient de prouver après avoir fait le tour de France et de Belgique, des thérapeutes en biologie totale, et qui a devant elle une liste en disant, voilà, le docteur machin, célèbre, je ne vais pas citer de nom, m'a dit que mon Parkinson, c'était ça. Un autre médecin m'a dit que c'était ça. Autre chose, bien entendu. Et elle cite comme ça une dizaine de décodages. Et puis elle s'adresse à moi, elle dit, mais vous, monsieur Labrique, c'est quoi mon Parkinson? Et moi, je lui dis, madame, pour vous, c'est quoi? Elle m'a dit, mais c'est bizarre, on ne m'a jamais posé la question.
Alors, autre Jacques Van Rillard qui réintervient. La prochaine fois, on vous invitera en direct, Jacques. Qui réintervient à nouveau et qui dit ceci, et ça a du sens, hein, je vous donne son message. Si un psychothérapeute ne peut plus émettre des hypothèses, c'est-à-dire des énoncés, qui demandent à être ensuite confirmés ou réfutés par le patient, il doit se contenter de faire Et il ne faut pas faire de longues études pour simplement écouter et faire accoucher.
Ce n'est pas simplement écouter, c'est mettre le patient en situation où il va pouvoir s'exprimer librement et de ne pas attendre de la part du thérapeute quelques vérités, que ce soit extérieures. C'est vraiment lui redonner confiance en lui et dans ses capacités d'auto-guérison. Ma pratique et celle de ma collègue Anne Devreux, qui m'a d'ailleurs aidé pour le chapitre concernant les constellations familiales, montre, et celle de père aussi, montre que ça s'avère apparemment très efficace de procéder comme ça. Évidemment, ce n'est pas toujours confortable pour le patient qui, à l'image du médecin qu'il aura en face de lui, docteur guérissez-moi, croirait que le thérapeute est aussi nanti d'une mission de le guérir. Non, c'est la facilitation maïeutique, j'insiste beaucoup là-dessus, qui devrait être le lot commun de toutes les thérapies et qui est de placer le patient en condition telle que celui-ci va laisser émotionnellement et au niveau de l'expression de ses ressentis exprimer ce qu'il a au fond de lui-même et découvrir l'intériorité de lui-même. Vous savez, je ne sais pas si vous savez qu'Albert Schweitzer disait très bien que le médecin intérieur est le meilleur médecin. Malheureusement, dit-il, c'est une science qui fonctionne très bien, mais malheureusement, peu de médecins le savent. Et moi, j'ajoute, peu de thérapeutes le savent. Donc, faire confiance dans les capacités d'auto-guérison du patient, c'est important, et le mettre en condition concrète qu'il puisse exprimer tout. Moi, je prétends, à travers ma pratique, que si on met le patient en condition de tout exprimer, il vous dira tout, ce qu'il a envie de dire en tout cas. Et le chemin qui va le conduire à la guérison qu'il souhaite, parce qu'il peut très bien simplement... Moi, j'ai des patients qui voulaient simplement accompagner vers la mort et simplement ne plus avoir peur de mourir. Donc, on doit rester tout à fait proche de l'objectif que le patient met en début de séance.
On va se retrouver dans quelques instants. Et puis je rappelle que vous pouvez continuer, il y a encore beaucoup de messages que je vais vous lire, mais vous pouvez continuer à nous les envoyer, www.lapremière.be, ou bien nous les téléphoner. Et c'est Catherine Sorel qui les réceptionne au 02 737 26 06. Voilà, alors pas mal de messages encore. Et puis je rappelle que votre ouvrage, Baudouin Labrique, s'appelle Quand les thérapeutes dérapent, donc c'est un essai. Ici, via le site, quelques messages. Il ne faut pas oublier que le monde manque d'humanité, que la pression du temps fait que nous avons de moins en moins de temps pour être en empathie avec les autres et se montrer solidaires. La technologie, comme le dit Hannes, gagne nos esprits d'une façon dramatique. Cela a des conséquences sur tous les métiers. Nous sommes dans une société mortifère. Quand est-ce qu'on se met pour remettre de l'humain dans chaque vie ? Personnellement, je me suis reconstruite après une grave dépression, non pas avec des thérapeutes, mais par mes recherches en sociologie et les associations de parents, même si ce n'est pas un long fleuve tranquille. Les experts d'expérience peuvent aussi apporter beaucoup à la société. Puis Christian qui dit ceci, les hypothèses peuvent prendre fonction de prédictions réalisantes. Et puis cette question, comment détricoter une longue manipulation. Alors, sur la manipulation, je ne m'attendais pas à avoir autant de courriels et de messages d'auditeurs et d'auditrices qui, à travers leurs témoignages, disent qu'ils ont été ou qu'ils se sont sentis, enfin évidemment, moi, on n'y était pas, manipulés par leur thérapeute. Et ici, il y en a un qui est assez impressionnant. Encore faut-il que je le retrouve, évidemment. Mais voilà. Donc vraiment, tous ces témoignages de manipulation sont quand même assez impressionnants. C'est aussi ce que vous entendez vous avec vos patients, les gens qui arrivent chez vous qui se disent mais en fait j'ai été manipulé.
Oui, ils se sont sentis manipulés. Donc la nuance est se sentir manipulé, c'est leur propre vérité et c'est fréquent. Bon, là, bien entendu, nous ne pouvons pas commencer à critiquer un collègue. Simplement, le but est de faire exprimer le patient par rapport à ça. En quoi vous vous êtes senti manipulé en lui disant, moi, je n'en doute pas, c'est votre vérité. Et le fait d'exprimer en quoi il s'est manipulé est déjà thérapeutique.
Alors ici, ben justement, un témoignage que je viens de retrouver. Dans les années 70, j'ai consulté un neuropsychiatre pendant 4 ans. Une relation de confiance s'était établie et vu le désarroi dans lequel j'étais, cet homme était fort important pour moi. Pour des raisons personnelles, lors d'une thérapie de groupe, il nous a annoncé qu'il quitterait le pays 2 mois plus tard, tout en nous faisant miroiter qu'un jour, on pourrait aller passer une dizaine de jours en groupe pour faire des petites mises au point et profiter du climat des îles. Lorsque je l'ai revu, je lui ai dit que je ne pourrais pas me payer un tel voyage. Ce à quoi il m'a rétorqué, mais enfin Guylaine, alors là, que les oreilles chastes se ferment quelques secondes, les putes et les drogués trouvent l'argent quand ils en ont besoin, alors si tu es motivé. J'ai pris directement congé de lui tant j'étais écœurée et j'ai mis du temps à faire le deuil de cette situation. Heureusement, j'ai pu faire la part des choses et je continue à cheminer. Voilà.
Ça donc me rappelle, là, oui. Je ne sais pas si vous avez lu cet ouvrage, de Nathalie de Reucht qui explique le calvaire de sa mère.
Non seulement ça me rappelle, mais elle fut l'invitée de cette émission. D'accord. Où elle a effectivement expliqué comment sa mère avait été finalement littéralement assassinée par des charlatans.
Mais elle explique très bien dans le tiers de son livre que sa mère a été voir une 50aine de médecins dont la plupart lui avaient promis la guérison. Mmh. Et là, la promesse de guérison, c'est quelque chose qui est une dérive manifeste. Et elle est pas unique aux médecins, elle est également elle est présente dans d'autres thérapies.
Alors ici, Chantal qui pose cette question connaît un généraliste qui a été rayé de l'ordre des médecins. Il exerce actuellement en tant que thérapeute. Comment est-ce possible alors que c'est vraiment un danger public?
Mais encore une fois,
parce qu'il n'y a pas de législation.
Porter plainte. Mmh. Il n'y a pas d'hésitation. Si, si. Ce médecin donc est radié. Mais vous avez une flopée de médecins tout à fait en exercice, qui pratiquent par exemple la biologie totale. À Bruxelles, il y en a quelques-uns. Eh bien, peu de gens savent qu'un médecin ne peut pratiquer que des approches qui sont conformes aux données acquises et récentes et actuelles de la science. Et qu'un médecin qui pratique la biologie totale est coupable de charlatanisme et peut être traduit en justice. Donc ici, c'est évidemment, c'est un cas de médecin radié, mais bon, il peut encore porter le titre de docteur, là aussi ça peut faire illusion, il y a des gens peut-être qui vont le trouver en croyant qu'il est médecin. Donc là encore une fois, porter plainte sur des cas précis que l'on a vécu soi-même, parce qu'on ne peut pas porter plainte pour quelqu'un d'autre. Et alors des médecins, ils constituent un dossier, et à un moment donné, si la personne, même radiée, se rend coupable d'exercice illégal de la médecine, elle sera traduite devant les tribunaux.
Alors ici, Robert qui dit « Ne parlons pas des thérapies faites par certains psychanalystes pour des petits problèmes relationnels dans la famille. » Parce que, figurez-vous que nous avions décidé de consulter... nous avions décidé, voilà, d'une thérapie familiale. Alors, on nous renseigne quelqu'un de soi-disant bien. En rentrant, je discute avec lui des aspects pratiques, rythme des séances, honoraires. Alors là, premier petit malaise, pas de remboursement possible et paiement comptant en liquide. La photo de Freud au-dessus du divan. Nous commençons la première séance. Après 10 minutes, il aborde mes relations avec ma fille. Rapport probablement incestueux et c'est de là que venaient tous nos problèmes. Je me suis levée, j'ai quitté les lieux et je n'ai pas laissé un franc.
Ce qui a manqué, mais je ne sais pas si ça a vraiment manqué, mais c'est que non seulement fixer le tarif, etc., mais fixer le cadre en disant voilà, comment ça va se faire, qu'est-ce que j'attends, en quoi la thérapie consiste, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Par exemple, si l'un agresse l'autre, le thérapeute peut s'opposer en disant non, arrêtez, exprimez plutôt ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et donc déjà là, apparemment, elle est rentrée un peu vite dans cette thérapie et dont le cadre n'avait pas été fixé complètement.
Il, en l'occurrence, en est tout aussi vite sorti, ce qui prouve quand même que mentalement, c'est ça. Parce que
là, c'est une bonne réaction, mais vous savez que c'est très rare, parce qu'il faut déjà une force de caractère, il faut déjà pouvoir se mettre à distance, alors que quand on est patient, on est vulnérable, parce que on ne peut pas avoir cette distance a priori.
Alors, ici, quelqu'un qui dit « Mon épouse est médecin généraliste. De sa pratique, je peux vous affirmer que la santé mentale en Belgique doit être revue dans sa globalité. En effet, il n'est pas rare qu'un patient en détresse doive attendre 2 semaines pour rencontrer un spécialiste de la santé mentale. De ce fait, beaucoup de personnes se tournent vers des thérapeutes qui prennent le rôle de médecin et les dérapages ne sont pas rares. » Et puis ici, là, c'est peut-être... quelque chose, c'est une interpellation qui arrive, qui dit « Monsieur Labrique vient de dénoncer la biologie totale, il y a peu, il n'était pas aussi catégorique, alors il y a un lien, mais j'ai pas le temps de tout lire. Et pour suivre régulièrement ces agressions sur les forums traitants de santé, je ne suis pas certaine qu'il soit bien placé pour parler santé et psychologie. » Bon, là, je peux pas faire d'enquête policière.
C'est une attaque personnelle. Je crois pas que ça a le lieu ici, on va pas commencer, on sait pas. Cette personne ne dit même pas son nom.
Elle ne dit pas son nom. Non, c'est anonyme. En tout cas, moi, dans votre ouvrage, je n'ai trouvé aucune sympathie pour aucune pratique telle que celle de la biologie totale. Au contraire, vous dénoncez et vous donnez des conseils assez assez sains aussi quant à la manière de se prémunir de charlatans. Jacques Jeanrila qui dit « Désolé de revenir encore, mais welcome Jacques. Mais il me semble tout à fait faux de croire qu'il suffit d'écouter et de faire accoucher l'intériorité pour traiter efficacement de graves dépendances comme l'alcoolisme ou des troubles obsessionnels compulsifs importants. Il faut là des traitements empiriquement bien testés. »
Oui, moi j'ai parlé de l'attitude de relation d'aide parce que c'est là où le bât blesse, mais je n'ai pas évidemment développé, ce n'est pas le lieu, tout ce que les psychothérapies peuvent apporter comme outil. Moi j'ai attiré l'attention sur là où se trouvent les principales dérives. Donc l'émission n'est pas une présentation de ce qu'est la psychothérapie, ce qu'elle devrait, et forcément c'est réducteur.
Alors ici, mon épouse fait une thérapie pour plusieurs troubles et ce depuis des années, aucune amélioration et des déceptions, mais j'aurais aimé des hypothèses et des solutions, car pendant ce temps, il faut vivre avec 3 enfants et une indemnité. Écoutez, c'est bien, agir serait mieux. C'est David qui nous envoie ceci, et puis cet autre, j'ai suivi une thérapie chez une psychiatre, donc un médecin, pour des problèmes de couple. Cette thérapie a duré 2 ans pour l'entendre dire qu'elle ne pouvait rien pour moi. 75 euros, deux fois par mois, pendant 24 mois. Faut-il tant de temps pour diagnostiquer sa propre incompétence? Elle est médecin, pourtant. Donc, l'escroquerie n'est pas l'apanage des charlatans. Voilà, vous disiez en début d'émission, il faudrait faire un peu de ménage, évidemment, à la fois dans toutes ces thérapies, dans toutes ces dénominations, mais aussi cadrer, quoi. Je suis heurtée parce que votre invité raconte, nous dit Martine. Je trouve qu'il pousse les gens à être insatisfaits, voire méfiants, à l'égard des personnes dont c'est la vocation d'aider les autres. Il pousse même à porter plainte. Mais où allons-nous? C'est donc la guerre totale. Pour un thérapeute, bravo. Il peut arriver qu'un thérapeute convienne à une personne et pas à une autre. Se sentir manipulé peut être déjà un problème du patient. Il faut faire attention à ce que l'on dit. Je pense, quant à moi, que la facilitation maïeutique si chère à votre invité, je suis d'accord avec lui, implique que le thérapeute ouvre des voies et ce sera au patient de sentir si cette voix lui parle ou non. Je trouve assez indécent de s'attaquer comme cela à la biologie totale qui... Alors là, je laisse à la personne l'entière responsabilité de ses propos. Nous le savons, sauve des vies. Voilà.
Alors, si elle sauvait des vies, moi j'attends des statistiques montrant qu'il y a des personnes qui se sont guéries avec la biologie totale. Aucune statistique n'existe.
Voilà. Et nous en resterons là-dessus. Donc, aucune statistique. Merci.
Merci.
Baudouin Labré, et puis merci à vous, auditeurs, qui avez été nombreux. Et désolé pour ceux dont je n'aurais pas eu le temps de lire les messages. Bienvenue à vous, Laurent de Hausset.
Ah ben c'est gentil, bonjour.
Mais écoutez, vous êtes chez vous.
Un petit peu.
Après 11h en tout cas,
voilà,
mais maintenant aussi.
Ça.
Voilà, Culture Club, juste après les informations.
Voilà, on va prendre la direction de Dakar avec une petite fille qui était très très heureuse au Sénégal et qui a un petit peu de mal à se remettre de cette enfance. Très heureuse d'ailleurs, c'est pas toujours évident. Et puis on va saluer la naissance d'un nouveau festival, le festival Checkpoint, qui s'interroge sur notre identité, sur... notre parcours, notre rapport à l'autre aussi, voilà.
Et quand vous avez dit checkpoint, j'ai d'abord compris que vous parliez de la Tchéquie.
Non, checkpoint.
Je me suis dit, ah chouette, les Tchèques débarquent.
Eh ben non.
Bien, voilà, ça c'est pour le sommaire donc, de Culture Club, juste après les informations de 11h. Et puis, demain, tout autre sujet, dans tout autre chose, puisque nous parlerons de l'obésité et notamment des arnaques au régime, voilà. Et de ce qu'il faut faire, une fois de plus, bien pour ne pas tomber dans ces pièges. À demain.